Introduction. 11 novembre 2022. Le data scientist senior était de plus en plus nerveux. Il n'avait pas prévu d'aller au bureau aujourd'hui. C'était la journée des anciens combattants, un jour férié, et la plupart de ses collègues de chez Twitter s'étaient déconnectés. De son côté, il faisait les 100 pas depuis près de 4 heures devant la porte d'une salle de conférence au 9e étage du quartier général de la compagnie à San Francisco, attendant d'être reçu par le nouveau propriétaire de Twitter. Elon Musk était dans son élément. Le milliardaire de 51 ans adorait mettre son endurance à l'épreuve. Il ne manquait jamais une occasion de prouver sa robustesse en dormant par exemple sur le canapé d'une salle de réunion de l'usine Tesla ou en passant une nuit blanche à peaufiner les tout derniers préparatifs d'un lancement de fusée SpaceX prévu à l'aube. Et à présent, il s'attaquait à Twitter. Après avoir déboursé 44 milliards de dollars pour son acquisition, il entendait tester les limites du réseau social. Pour lui, la question était de savoir combien de temps il lui faudrait pour faire plier l'entreprise tout entière. Le data scientist, un homme longiligne, aux cheveux auburn en bataille et aux yeux d'un bleu acéré, était entré chez Twitter à peine un an auparavant. Ses collègues n'avaient pas tardé à voir en lui quelqu'un de très réfléchi et de particulièrement sensible aux bienfaits, ainsi qu'aux dangers, de la création de communautés en ligne. Durant les 5 ans qu'il avait passés chez Facebook, il avait appris à synthétiser le vaste paysage des réseaux sociaux en phrases claires et succinctes et à traiter des quantités astronomiques de données utilisateurs afin d'étudier des sujets aussi délicats que les discours de haine et la propagation de fausses informations, phénomène qui avait joué un rôle considérable dans les émeutes du 6 janvier au Capitole. Fidèle à sa formation universitaire, il relevait souvent les manquements de ses supérieurs avec une franchise peu habituelle pour un employé. En avril, quand Musk s'était proposé de racheter Twitter, le salarié avait accueilli la nouvelle avec optimisme. Cet entrepreneur avait révolutionné 2 industries en ouvrant le marché des voitures électriques au grand public et en investissant dans la privatisation de l'exploration spatiale. Peut-être ce visionnaire était-il le seul capable de redonner à Twitter un sérieux coup de fouet. Mais au cours des 2 dernières semaines, Musk avait congédié la moitié de ses collègues, sans raison apparente, et en expliquant que vaguement sa vision. Il s'était mis les annonceurs à dos, minant ainsi les fondements même du modèle économique de l'entreprise, et il avait pris pour argent comptant une grossière théorie du complot, tweetant une fake news au sujet de l'époux de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Ce dernier aurait eu une relation avec l'homme psychologiquement instable qu'il avait agressé chez lui. C'était le genre d'absurdité que seul un esprit perverti par des heures de vase clos dans sa petite bulle algorithmique était capable de croire. Le data scientist était tout bonnement horrifié. Manifestement, Musk faisait partie de ces conspirationnistes si faciles à duper qu'il avait étudiés. Malgré tous les changements qu'il avait déjà apportés à la plateforme, Musk avait clairement fait comprendre qu'il ne se reposerait pas ce vendredi. De très bonne heure ce jour-là, il avait envoyé un email à ses employés dans lequel il saluait ceux qui étaient restés la veille à ses côtés. « Je serai au bureau aujourd'hui aussi », écrivait Musk. « N'hésitez pas à passer au 9e étage si vous souhaitez parler des moyens d'emmener Twitter à l'étape supérieure. Priorité aux actions à court terme. » Le data scientist avait décidé de se jeter à l'eau. Il avait bravé le brouillard hivernal de la baie, remontant Market Street jusqu'à l'imposant siège Art Deco de Twitter. Peu après 10 heures, il s'était installé à un bureau dans une salle de conférence avec une vue imprenable sur l'hôtel de ville de San Francisco. Ses parois de verre permettaient aux employés de jeter un coup d'œil en passant aux cadres dirigeants qui y discutaient, comme s'il s'agissait de lions dans leur cage. Musk était évidemment l'attraction principale et les employés qui attendaient d'être reçus parlaient à voix basse de ce qu'ils avaient bon espoir de dire à leur nouveau patron. Tout en pianotant énergiquement sur son ordinateur portable, apportant les dernières finitions à 2 mémos qu'il entendait communiquer à Musk, le data scientist tendait l'oreille. Quelques-uns de ses collègues murmuraient leurs inquiétudes quant au faible nombre d'utilisateurs ayant souscrit la nouvelle formule d'abonnement proposée par Twitter. Bertram Rezaé, un homme chaleureux qui portait des lunettes rondes en écaille et dirigeait des équipes d'ingénieurs au sein de Twitter depuis plus de 5 ans, l'aborda. Rezaé était parvenu à s'attirer les bonnes grâces de Musk et à éviter le couperet des licenciements dont ses collègues managers avaient fait les frais, s'élevant même au statut de vice-président. Il tenait le data scientist en très haute estime et avait mis à profit sa nouvelle influence pour lui assurer une entrevue avec Musk. « Elon ne veut entendre que des choses positives », lui déclara Rezaé. « Ne lui parle pas des obstacles que pourrait rencontrer sa politique disruptive. Il n'a qu'un désir, le bien de l'humanité. » Cependant, Rezaé ignorait que le data scientist avait d'ores et déjà décidé de démissionner. L'email de Musk ce vendredi matin n'avait fait que reporter d'un jour son départ. Il croyait encore en Twitter et dans le pouvoir des plus gros réseaux sociaux et voulait espérer que le grand patron l'écoute. Peut-être que la cohorte de courtisans qui avait rejoint la plateforme dans son sillage n'avait pas osé lui dire à quel point il s'y prenait mal. Il avait préparé 2 documents dans la perspective de cette rencontre. Le premier était une liste d'idées pour diriger plus efficacement Twitter. Le second, bien plus audacieux, détaillait en quoi la stratégie de Musk consistant à générer des revenus grâce aux abonnements et à abandonner l'ancienne politique de modération des contenus ne fonctionnerait pas, et en quoi sa paranoïa et son instabilité lésaient les intérêts de l'entreprise. Au fil des heures qu'il meublait par des grignotages compulsifs, son cœur s'emballait alors qu'il répétait intérieurement les phrases qu'il projetait d'adresser à Musk. Enfin, un peu après 14 heures, une assistante aux yeux de biche vint lui dire que le directeur était très occupé et qu'il n'aurait que 5 minutes à lui accorder. Le data scientist entra dans la salle de conférence d'un pas décidé. Musk était assis à l'autre bout d'une vaste table de chêne, sa silhouette imposante engoncée dans un fauteuil Herman Miller. L'employé se présenta et entra aussitôt dans le vif du sujet. Musk écouta attentivement ses idées sur la croissance, la vérification des utilisateurs et les moyens de motiver les employés. Le data scientist lui exposa en quoi les modèles d'abonnement aux réseaux sociaux étaient économiquement épouvantables, avant d'esquisser une stratégie de modération par un tiers, hors de l'influence directe de l'entreprise, et qui serait seul responsable des décisions portant sur les propos tenus en ligne. Les quotidiens et les magazines jouissent d'une indépendance éditoriale absolue, ce qui signifie que leurs propriétaires n'ont jamais le dernier mot sur ce qui est publié et ce qui ne l'est pas, déclara le data scientist. Les réseaux sociaux devraient suivre le même modèle. Cela n'impressionna guère Musk. Ou pas, marmonna-t-il. L'assistante passa la tête dans l'entrebâillement de la porte pour l'informer que le rendez-vous suivant était arrivé. « Avez-vous fini ?»« Une toute dernière chose, » répondit l'intéressé. Il inspira profondément. « Je vais présenter aujourd'hui ma démission. Votre arrivée à la tête de Twitter m'avait réjoui, mais votre tweet sur Paul Pelosi m'a beaucoup déçu. Il était évident qu'il s'agissait d'une campagne de désinformation partisane, et pour cette raison même, je m'inquiète de vos vues personnelles et du genre d'amis de qui vous tenez vos informations. » Seuls 10% de la population adulte sont assez crédules pour gober ce genre de choses. Musk, déjà pâle au naturel, blêmit encore plus. Il se pencha en avant. Personne ne lui parlait jamais de la sorte. Et personne, encore moins quelqu'un qui travaillait pour lui, n'aurait osé remettre en question son intelligence ni le contenu de ses tweets. Un bref instant, il darda son regard sur son interlocuteur. « Allez-vous faire foutre ?» grogna Musk. Cela ne fit qu'enhardir son employé. Il n'était prompt ni aux disputes ni aux insultes, mais la réaction du milliardaire ne faisait que renforcer sa conviction qu'il était l'une des personnes les moins indiquées pour diriger une entreprise représentant une part si importante du discours en ligne. « J'espère que vous déposerez très vite le bilan » et que quelqu'un d'autre dirigera cette boîte. « Démission acceptée », répliqua sèchement Musk.